continue à voir para ta grâce. Continue à parler dans nos cœurs. Ouvre les yeux de notre cœur. Nous voulons te connaître. Amen. Oui, dans le chapitre 3 de Philippiens, il y a encore des versets importants. Et il y a tant à saisir du Seigneur. Et pour moi, et les versets que nous avons lus plusieurs fois ce matin sont sur mon cœur, sont pleins de signification. Et c'est important, comme ça a été aussi évoqué dans des témoignages. L'épître aux Philippiens parle beaucoup de l'Évangile, mais ce n'est pas un appel à une action, à un programme. L'Évangile ne doit jamais être un programme. Il en va de quelque chose d'autre. Toutes les choses dans l'Écriture ne sont pas là pour un programme. Même la vie de l'Église n'est pas un programme. Il n'en va pas d'une connaissance juste. Si nous sommes juste dans la sphère du programme, de l'action, de connaître les choses justes et de les mettre en pratique, nous passons à côté du but. Dieu a un désir, un plan. Comme nous l'avons déjà entendu, il veut nous sauver entièrement. Notre salut comprend, inclut beaucoup de choses. Cela commence avec le fait que Christ entre en nous, nous donne sa vie, et ce n'est que le début. Et alors il faut beaucoup de temps, beaucoup de communion avec Jésus-Christ, pour qu'il puisse guérir notre âme, la transformer, la renouveler. Nous avons tous besoin du renouvellement de notre âme. Car aucun de par sa naissance ne peut être parfait pour le Seigneur. Nous avons besoin d'être sauvés dans notre âme. Tout notre être a été corrompu par l'ennemi. Chez chacun, certains ressentent, vivent leurs problèmes et d'autres pas. Mais devant Dieu, nous avons tous un problème. Il n'y en a aucun qui ne soit parfait. Notre âme ne correspond pas à Dieu, à moins que le Seigneur n'y entre et nous renouvelle et puisse faire son œuvre. Et cette œuvre que le Seigneur veut faire en nous, c'est la bonne nouvelle. Dieu fait une telle œuvre en nous. Ce n'est pas un appel pour un programme d'amélioration de soi-même. Dieu ne t'appelle pas maintenant à t'améliorer, à t'efforcer à devenir meilleur. Ce ne serait qu'un comportement religieux. Je veux être un bon homme. Un homme bon ne suffit pas devant Dieu. Dieu veut nous sauver. Alléluia pour le salut. Nous avons lu ces versets que Dieu peut nous sauver parfaitement dans Hébreux 7, 25. Qui peut le faire? C'est lui qui peut le faire. Personne d'entre nous. Seigneur Jésus, c'est pourquoi notre désir est de te connaître davantage. Qui es-tu? Nous avons besoin de lui. C'est cette personne qui nous fait du bien, qui œuvre quelque chose en nous. Et c'est aussi la bonne nouvelle. Que fait l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Nous l'avons déjà tous entendu. Je ne vous dis pas des choses nouvelles, je le confirme. Et en fait, une chose vraie est confirmée par deux ou trois témoins, dit le Seigneur. Et je vous le dis encore une fois, cet Évangile n'est rien d'autre qu'une personne, Jésus-Christ. Dieu n'a qu'une un désir, révéler son Fils. C'est le grand désir de Dieu. Nous le remarquons souvent pas. Combien c'est le désir de Dieu. Dieu n'a qu'un désir pour toute l'humanité, à révéler son Fils. C'est le désir de Dieu, son Fils. Il le connaît. Nous ne le connaissons malheureusement pas. Nous n'avons qu'un désir si limité, malheureusement, de le connaître. Mais Dieu veut le révéler à tous les hommes. Et ce Fils a fait bien plus que juste le pardon des péchés. Dieu a un tel désir, c'est mon premier sujet au point aujourd'hui, que nous puissions découvrir quelque chose du désir de son cœur. Dieu veut chercher toutes les occasions pour révéler son Fils. Il a tout fait en lui. À part Christ, Dieu n'a rien à offrir. Il connaît l'efficacité, la capacité de son œuvre en Christ, ce qu'il lui a préparé. C'est si important. Et quand nous lisons les Écritures, et la majorité d'entre nous connaissent les Écritures, et comme nous l'avons entendu, c'est bon de lire et de lire toujours à nouveau. Tu as lu toute la Bible, recommence. Cela ne vieillit pas, ça ne devient pas ennuyeux, car Dieu parle, et quand nous ouvrons notre cœur, Dieu veut parler, et nous allons constater combien, si souvent, Dieu a ce désir de révéler son Fils. Il veut le présenter, le montrer, en toutes choses, dans toutes les situations. Souvent, nous avons à cœur d'autres choses. Quand il en va de l'Évangile, je ne sais pas comment ça va chez vous, nous pensons tout beaucoup que toi et moi, nous soyons pas condamnés pour l'éternité, nous soyons pas perdus. Et le focus est sur le fait que tu es un pauvre pécheur et que tu dois reconnaître tes péchés. Je dis pas que ce soit faux. Je suis pas dans la sphère du faux ou du juste. Mais le point central dans la Bible n'est pas ce point-là. C'est vrai que nous sommes pécheurs. Nous allons nous perdre si nous n'expérimentons pas le salut. Mais le désir réel de Dieu est de nous montrer Christ. Quand Paul est venu, quand les apôtres sont venus, Pierre, ils ont aussi parlé du péché. Mais en fait, ils ont si vraiment insisté sur Christ. Regarde, là, il y a Jésus-Christ. Il vit, il a été ressuscité d'entre les morts. Il est tout. Il est si grandiose, si tout inclusif. Contemple-le. Oublie-toi, amen. Regarde à Jésus. Car pour Dieu, Christ est si fascinant, si grand. Et nous regardons qu'à nous, mes problèmes. J'ai besoin de Christ, car j'ai un problème, nous avons des problèmes. Et nous avons besoin de Christ parce que nous ne pouvons pas nous entendre. Mais oublie-toi donc une fois, oublie-toi. Tes problèmes et regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Je ne le vois pas. Oui, c'est le problème. Où est-ce que je vois Christ? Je vois mes problèmes. Vous savez, on peut tellement souvent regarder nos problèmes, en parler, et tu peux trouver quelqu'un qui fait de la cure d'âme, mais ça ne va pas résoudre le problème. Désolé, peut-être qu'il va encore causer plus de problèmes. Désolé, le seul qui puisse vraiment sauver notre âme, c'est Jésus-Christ. Et Dieu voudrait le révéler. Et il en va d'une révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, je le vois? Est-ce que tu as vu Jésus? C'est la question. C'est pas est-ce que tu sais des choses au sujet de Jésus. C'est le désir de Dieu pour tous les hommes, pour tous les croyants, et spécialement pour les croyants dans l'Église. Nous, les croyants, nous avons besoin de l'Évangile. Nous nous annonçons dans l'Église l'Évangile. L'Évangile est la révélation. Qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous manifestons, rendons visible la vie que nous avons. La révélation, finalement, c'est que Dieu qui puisse la donner par son esprit. Mais il ne peut donner cette révélation que si nous parlons. Je ne peux pas te donner une révélation, tu ne peux pas me donner une révélation, mais si tu commences à me parler de Christ, et ce que tu as vu de Christ, et tu me parles, et l'Esprit va parler dans mon cœur. Il va utiliser ton témoignage pour ouvrir mes yeux pour Christ. Et nous avons besoin de cela. Seigneur, ouvre mes yeux pour Jésus-Christ dans les réunions. Naturellement, j'ai rien contre les réunions intitulées « Réunion d'Évangile ». Mais en fait, chaque réunion est une réunion d'Évangile. Nous entendons la bonne nouvelle dans nos réunions. Et quelle est la bonne nouvelle? Christ doit nous apparaître. Et en fait, cette nouvelle n'est que le commencement. Quand par son esprit, Dieu nous ouvre les yeux, ça c'est le point. Nous avons besoin de savoir. Ceci n'est pas mauvais. Nous avons besoin d'entendre, de lire. Lis la Bible, lis la parole, écoute. C'est important. Mais après, il nous faut voir. Nous devons voir. Et notre vie chrétienne, notre vie d'Église ne dépendra pas finalement de ce que nous savons, mais de ce que nous voyons. Et ce que nous voyons nous vient par l'Esprit. Et il nous ouvre les yeux pour Christ. La connaissance est nécessaire afin que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux par son esprit. Et quand nous voyons, et alors nous saisissons aussi. Il est différent du chemin du monde. Dans le monde, tu sais quelque chose, tu comprends quelque chose, et après tu veux saisir, accomplir quelque chose. Mais en fait, avec le Seigneur, ça passe par cette révélation. L'Esprit doit ouvrir nos yeux, et pas juste une fois, mais toujours à nouveau. Toujours à nouveau. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Qui es-tu? Beaucoup de problèmes viennent du fait que nous restons juste à la connaissance. Nous savons tant de choses, mais nous ne voyons pas Christ. Et là, je vais écrire Christ encore. Nous ne le voyons pas. Et c'est pourquoi nous faisons du surplace, nous n'arrivons pas plus loin.
Et
la révélation n'a rien à voir avec une intelligence très forte. Tu peux connaître toute la Bible. Tu peux la comprendre si tu es un peu doué, tu l'étudies. Il y a tant d'interprétations, tu peux toutes les collecter dans ton intelligence. Et pour chaque verset, tu as une interprétation extraordinaire. Et je peux me dire, tu es vraiment formidable, quel homme! Tu sais tant de choses, mais je crois que tu te révéleras toi et pas Christ. la connaissance ne permet pas d'aller plus loin. Il nous faut avoir touché l'esprit qui nous ouvre les yeux et que nous voyons. Et ceci fait une grande différence dans ta vie et pour la vie de l'Église. Sans la communion dans les réunions, dans les réunions, dis, demande au Seigneur de se révéler. Il n'en va pas de quelque chose de nouveau ou pas, mais Seigneur, apparais-nous. Toi, encore une fois, Seigneur. Oui, alléluia. Oh, c'est merveilleux quand le Seigneur nous apparaît. Il n'en va pas d'une nouvelle révélation. Oh, Seigneur, tu es comme hier, mais c'est le Seigneur qui donne la vie. Il est la vie. Et quand nous lisons la Bible, c'est pas pour trouver des idées, une opinion, se faire une opinion. Et toi, tu as une opinion, et moi, j'ai encore aussi mon opinion. Au sujet de ton opinion, tu as des versets, j'ai des versets. Et alors, nous pouvons peut-être penser, nous avons une bonne communion. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous soit apparu. Nous l'avons peut-être pas vu, nous avons peut-être partagé nos opinions, nous avons partagé des versets. Tout ça n'est pas mauvais, ne me comprenez pas mal. Oui, parle de la parole, mais ne reste pas à ce niveau-là, mais demande. Seigneur, je voudrais plus voir de toi. Paul, dans Philippiens 3, a eu cette attitude. Je voudrais le connaître. Il a vu l'excellence de la connaissance du Seigneur, de Jésus-Christ, et alors il a dit, je veux le gagner, afin de gagner Christ, au verset 8 de Philippiens 3. Mais pourquoi voulait-il gagner Christ? Il était sauvé, il avait Jésus-Christ, plus de Jésus-Christ. Il voulait gagner Jésus-Christ. Et pour que nous puissions le gagner, il doit se révéler. Dieu a ce désir. Et si nous sommes prêts, Dieu va révéler son Fils. Mais si nous sommes remplis de nos idées, Dieu n'a pas de chemin. Dieu veut nous révéler quelque chose, et puis nous allons dire, « Oh, j'ai encore un verset, Seigneur. » Et puis je peux mieux expliquer que cette sœur. Vous savez, après la résurrection du Seigneur, les disciples d'Emmaüs retournaient, et Jésus s'est entretenu au sujet de la loi des prophètes, mais autrement que comme les hommes le faisaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré, il s'est révélé lui-même, dans la parole, avec la parole, il s'est révélé lui-même. C'est ce que nous faisons par l'Évangile, avec les hommes et aussi entre nous. Mais regarde, ça c'est Christ. Et pas, regarde, ça c'est mes problèmes, c'est Christ. Et à la fin, dans Apocalypse, et Dieu ne se tait pas, ne ferme pas les yeux sur les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire les problèmes. Dieu les voit. Ne crois surtout pas que Dieu ne voit pas les problèmes. Mais dans l'Apocalypse, les églises avaient beaucoup de problèmes. Mais quel était le chemin de Dieu? Il a révélé Christ. À chaque église, Dieu a montré quelque chose d'autre de la personne de Christ. C'était toujours lui-même. Et c'est Christ. La révélation était différente à Éphèse, à Smyrne, à Pergame. C'est différent que l'église à Stuttgart, l'église à Reutlingen, mais toujours Christ. Lui. Seigneur Jésus. Dieu voudrait faire cela. C'est le seul chemin. Il n'a rien d'autre. Il n'a rien d'autre à offrir. Pour nous, souvent, le point n'est que nous avons trop peu. Nous avons trop peu de Christ. Regardez cette image avec les trois cercles. Je crois que le tableau va bientôt être plein. Nous, dans notre esprit, au centre de ces trois cercles, il y a Christ. Nous avons tous Christ. Ceux qui ont reçu Jésus se sont décidés. Nous l'avons dans notre esprit, mais nous voulons le gagner parce que nous le voulons dans les chambres de notre cœur, dans notre âme. Nous voulons le gagner. Et Éphésiens 3 dit que Christ fait sa demeure dans nos cœurs, dans toutes les chambres de notre cœur. Il veut y entrer. Et il attend que nous demandions, « Seigneur, qui es-tu ? Montre-toi. Je voudrais te connaître. Je voudrais que tu rentres. » Seigneur Jésus. Oui. Et en fait, il dit, j'ai renoncé à tout, mais ça commence pas par ce point-là, ça commence avec l'excellence, la connaissance de Jésus-Christ. Il doit y avoir ce désir de le connaître. Sinon, et le point, c'est pas juste d'être maintenant satisfait, j'ai Christ dans mon esprit, j'ai Christ, et puis je vis dans une autre sphère, dans un programme, et je commence à être dans un système qui cherche à forcer mon comportement. Mais si je suis dans un programme, Seigneur, mais qui es-tu? Où es-tu? Suis-je en toi? Ou suis-je quelque part d'autre? Tu crois que Dieu a préparé un programme, Christ et un programme, pour que ça fonctionne mieux? Nous connaissons si peu Christ, alors Dieu nous donnerait un programme en plus? Que ça fonctionne plutôt? Tu crois que Dieu fait ça ainsi, une méthode? Non. Dieu n'a pas de plus. Nous, mais nous nous appuyons là-dessus, j'ai Christ, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mais ou le et, le plus. Ou à moins. Il y a tant d'autres choses. Et ces autres choses ne sont pas mauvaises, hein. Je ne parle pas des choses mauvaises. Beaucoup d'autres choses que tu trouves dans la parole. Oh, Christ est un autre point qui m'est si important. Et ce qui devient si important devient une méthode, et à la fin, ça empêche la révélation de Christ. Ça veut pas dire que tu n'as pas Christ, mais ça va pas plus loin. Tu es dans une impasse. Quand tu vois au début d'une rue que c'est une impasse, et si tu veux visiter quelqu'un qui habite dans cette impasse, tu n'as pas besoin de rentrer dans cette impasse. C'est une impasse. C'est pas le chemin pour progresser. Nous, les chrétiens, nous nous tenons si souvent, pas juste dans des rues secondaires, mais dans des impasses. Et oui, ça c'est aussi juste dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et c'est ici, dans la Bible, mais Dieu veut nous révéler Christ. Est-ce que nous voyons Christ ou les méthodes? Il y a tant de choses, je ne veux pas les évoquer maintenant. Mais nous devons avoir une conscience. Mais si nous plaçons quelque chose d'autre à côté de Christ, s'il y a quelque chose qui sort et qui prend cette place aussi à côté de Christ, ce n'est pas nécessaire. Dis stop, Christ est nécessaire. Et pour la vie de l'Église, ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de connaître Christ. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi ce point des richesses insondables de Christ. Ça va plus loin, Seigneur. Merci, tu as pardonné mes péchés. Le prochain témoignage. Oh, j'étais tellement loin. Le Seigneur s'occupe de ceux qui sont perdus. Oui, nous louons le Seigneur pour cela. Mais ça va plus loin. Oui, le salut va plus loin. Il est parlé des richesses insondables de Christ. De Jésus-Christ, il en parle dans Éphésiens. C'était le point grand 6, grand 1, petit 2. Et c'est ce Christ qui est pour l'Église. Les incroyants, eux, sont réconciliés avec Dieu. Nous avons, les croyants, ont été réconciliés dans un corps avec Dieu. Et tu ne peux pas le séparer. Au début, quand tu viens de l'extérieur du monde, tu dois être réconcilié avec Dieu. Et alors tu vas expérimenter que tu n'es pas seul. Et que tu vois qu'il y a encore tant d'autres croyants. Et alors nous avons besoin d'être réconciliés les uns avec les autres. Et c'est l'Évangile. L'Évangile ne suffit pas de dire « Je suis réconcilié avec Dieu, j'ai la paix avec Dieu ». Qu'en est-il des saints? Je suis tellement un avec les saints à Reutlingen. Oui, je peux le dire, mais j'habite à Bonn. Oh, et les frères et sœurs à Colmar, ils sont si glorieux. Si tu viens visiter l'église à Colmar, c'est merveilleux. Et quand tu déménages, alors c'est aussi une merveilleuse vie d'église pour gagner Christ. Et quand je suis réconcilié, j'ai la paix. Et ceci n'est possible qu'en connaissant Jésus-Christ. Si j'ai des problèmes et que j'arrive pas à venir au bout, et c'est un indicateur que j'ai encore beaucoup besoin plus de le connaître. Il y a encore plus de possibilités à le connaître. Ton problème montre que tu as besoin de connaître plus Christ. Et c'est pour ça qu'il a aussi placé chaque saint à la bonne place dans le corps. Seigneur Jésus, c'est si important, encore plus le connaître. Mais il peut y avoir un obstacle. Il y a malheureusement toujours des obstacles. Ne devons pas être naïfs, ne devons pas nous tromper. L'ennemi œuvre aussi, il veut empêcher cela. Il va nous amener tellement de points, même bibliques. Ce que tu dis est certainement bon. Ce que tu présentes est quelque part dans la Bible. Nous pouvons discuter. Et ça n'ira pas. Mais la question c'est, est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est lui-même? C'est lui-même. C'est la question. Si j'ai peu de capacité, est-ce que c'est Christ? Si j'ai beaucoup de capacité, est-ce que c'est toi? Seigneur, ouvre-moi les yeux, révèle-toi. Et puis ça va un peu plus loin, au verset 9, et de Philippiens 3. J'ai souvent lu le verset 8, et puis le verset 10. J'ai apprécié la mort. Mais le verset 9, je l'ai souvent passé rapidement, je l'ai lu juste. Mais ce verset m'est devenu si important depuis un an, peut-être un peu plus, et je vais le lire. Philippiens 3, verset 9, il dit à la fin du verset 8, « Afin de gagner Christ, c'est Paul, et c'est pour nous tous, c'est l'Évangile. Pas juste que j'ai Christ, mais que j'ai plus, que je reçois plus de lui. C'est l'Évangile. Et afin que je ne le gagne pas seulement, mais d'être trouvé en lui. » Et c'est ça le point. C'est toujours le point. Pas juste pour Paul, mais pour nous tous. Parce que Christ vit en nous. Et ça continue. Et comment je le gagne? Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et comment je le gagne? En gagnant la justice. On va effacer ça. Il en va de la justice. Ah, c'est pas si bien effacé, mais bon. Désolé. La justice. Sans la justice, ça ne va pas. Est-ce que je peux gagner Christ sans la justice? Mais la justice seule ne suffit pas. Nous penserions que avoir la justice suffirait pour gagner Christ. Nous sommes injustes, mais nous ne sommes pas pour l'injustice, nous sommes pour la justice. Quand quelque chose se passe, nous insistons sur la justice. Oh, j'ai encore expérimenté une injustice. Personne ne le voit. Il doit y avoir quelqu'un qui doit agir. C'est injuste. La justice ne suffit pas. Il n'en va pas juste d'une justice. Il n'en va pas de ma propre justice. Et là, je mets une séparation. Il y a la justice qui vient de Dieu. La justice qui vient de Dieu. Il faut la justice qui vient de Dieu pour gagner Christ. C'est mystérieux. C'est Christ, ça fait rien. C'est mystérieux, mais Dieu veut nous le montrer. Qu'est-ce qui nous empêche de gagner Christ, notre propre justice? Non pas dans ma propre justice. Et Paul insiste là-dessus. Et cela nous empêche. Dieu n'accepte pas cette justice. Oh, maintenant, enfin, tu es arrivé à la justice, et Dieu va te dire, ça ne m'intéresse pas. Tu es juste, mais tu es condamné. Tu es perdu. Quoi? Comment est-ce possible, oh Dieu? Je suis juste, et tu me dis que je suis perdu? J'espère que personne n'aura des problèmes avec moi. Je ne voudrais pour personne une pierre d'achoppement, mais je dois le dire. Parce que si souvent, nous nous empêchons d'avancer, c'est quoi cette justice? D'où elle vient? C'est la loi de Dieu. Quand je parle de la propre justice, tu vas me dire, oui, chacun a sa propre justice. Nous, à la maison, nous avons notre propre justice, et même ma femme a sa propre justice, et moi, ma propre justice. Comment on range le lave-vaisselle, chacun a son argument pour ranger les assiettes. Ce sont des petites choses, et il y a des plus grandes choses. Et chacun a sa vie, sa propre justice, comment il conduit sa vie. Et alors tu penses, et tu vois que c'est souvent la même chose dans l'Église. Nous avons nos concepts sur la manière dont ça doit se dérouler. C'est ta propre justice, ta propre opinion. Tu justifies, il n'y a pas d'autre argument contre. Et pourtant, il agit selon sa propre justice. Et alors tu dis, ça ne peut pas fonctionner. Alors nous disons, ça ne va pas. De cette manière, cette propre justice, nous devons la laisser. Mais il n'en va même pas là. Il est parlé ici de la loi de Dieu. Tu peux t'imaginer que la loi de Dieu, et Dieu dit que ça ne fonctionne pas. Et nous pensons que c'est le problème, que la loi de Dieu est le problème. Le problème, c'est que nous disons souvent que nous ne pouvons pas accomplir la loi de Dieu, et c'est pourquoi c'est un problème. Parce que la loi de Dieu est si sainte, si élevée, et nous ne pouvons pas l'accomplir. Alors cette partie-là ne nous fait pas du bien. Et ce n'est pas le chemin de Dieu. Une autre question. Et si tu pouvais accomplir la loi de Dieu, qu'en serait-il de cette partie-là? Si, imagine-toi que tu puisses accomplir la loi de Dieu. Peut-être pas à toi, mais pense à un autre frère ou cette sœur. Alors quoi? Est-ce que Dieu accepterait cela? Est-ce que Dieu pourrait le recevoir? Ben, il devrait, tu dirais, puisque c'est sa loi. La loi exige la justice, c'est une exigence de la loi. Et pourtant, et l'Écriture dit non. La loi n'a pas été donnée pour cela. Car la loi ne produit que la propre justice. La loi ne produit que ta propre justice. Et Paul le dit lui-même, que personne, tu peux dire, personne ne peut l'accomplir, mais qu'est-ce que dit Paul ici? Je lis encore une fois, à partir du verset 5, Philippiens 3, 5. Moi circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, la loi produit aussi le zèle, appelle au zèle. La loi ne dit pas « sois paresseux, laisse-toi aller ». Non, non. Efforce-toi, montre que tu es pour Dieu. La loi exige cela. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul était celui qui avait atteint la justice par la loi. Paul, montre-nous comment tu l'as fait. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais Paul dit, j'ai vu quelque chose. Cette loi ne produit rien, n'accomplit rien, ne mène pas à la perfection. Ce que Dieu veut nous donner, c'est Christ. Comme notre justice. Lisons Romains 10, verset 4. En tant que chrétiens, nous avons cette tendance, quand nous avons été sauvés, à nous tourner vers la loi. Nous avons été sauvés par la foi de Jésus et nous commençons à marcher selon la loi. Et Dieu nous dit, non, tu dois marcher selon Christ, t'attacher à Christ. Et c'est pour, je le dis, ça nous touche, nous les chrétiens, pourquoi sommes-nous si souvent condamnés? Parce que nous expérimentons Christ. Est-ce que Christ nous condamne? Oh, tu as... Est-ce qu'il nous condamne parce que nous n'avons pas bu assez de l'esprit? Quand tu... Est-ce qu'il te condamne? Combien de chrétiens, combien de nous disent « Je n'y arrive pas, je suis impossible. Oh, si je continue, mais où est-ce que je vais arriver? Je vais tomber dans la malédiction. » Est-ce que c'est ça l'évangile? Lisons Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la justification ou la justice. Il est la justice pour chacun. Pour chacun qui croit, oui, il doit croire. Pas celui qui pas chacun de tous ceux qui s'efforcent, qui font encore plus d'efforts. Ah, tu veux être perfectionné, tu fais encore plus, tu as un programme, tu commences demain, et demain tu commences à entraîner ta vie chrétienne à midi, le soir, et tu iras totalement épuisé au lit, tu iras au lit, mais tu pourras dire, je me suis efforcé à faire une œuvre. À vivre selon une méthode. Et dans la loi de Dieu, il y a tant d'ordonnances pour notre comportement et la lettre joue un rôle. Et à la fin, tu marches. Tu marches, tu fais beaucoup, mais tu n'as pas cru. Il n'est pas dit pour celui qui marche, qui court, mais pour celui qui croit. Pour tous ceux qui croient. Est-ce que tu crois que ça suffit? Est-ce que tu crois que ta foi suffit? Ta foi en Christ? Ou est-ce que tu as encore besoin d'un plus? Pour tous ceux qui croient, c'est Christ qui compte. Et il veut œuvrer. Et pour qu'il puisse œuvrer, cela nécessite notre foi en lui. Et il est la fin de la loi. La fin, c'est la fin. Il n'y a pas une suite. Oui, c'est la fin de la loi, mais il y a encore quelque chose. La fin est la fin. Est-ce que vous croyez cela? Oui, mais quand vous sortirez, et si quelqu'un vient et te dit, toi tu vis dans l'église, et puis tu vis comme ça? Ah oui, mais c'est vrai, c'est écrit comme ça, oui, je devrais faire ça, mais pourquoi je ne fais pas? La question, c'est combien avons-nous vu de Christ? C'est si décisif. Nous devons avoir cette capacité de voir. Dieu guérit les aveugles. Nous sommes aveugles. Mais quand nous voyons, nous pouvons tout faire. Dieu peut tout faire avec nous. Christ est la fin.
Wisst ihr,
Pour qui la loi a été destinée? À qui la loi est donnée? Aux chrétiens? Aux nations? Non. La loi n'a pas été donnée aux nations. Cette loi de Dieu a été donnée à son peuple terrestre, aux Juifs, et seulement aux Juifs. La loi leur a été donnée. Nous n'avons rien à faire. C'est vraiment une info là. Mais Christ a été donné aussi bien aux Juifs et aux nations. Et avec lui, on a tant à faire. Nous n'avons pas cette part. Mais que dit Galates? Je crois que c'est dans Galates 4. Où est écrit ce verset? Non, c'est dans Galates 3. Non, c'est Galates 4, verset 21. Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. C'est notre problème. Nous nous décidons. Nous voulons être sous la loi. C'est ta décision. Tu dis, je ne veux pas. C'est un temps gaspillé. Nous devons être en Christ. Il
n'y
a pas de comparaison. Il
n'y
a pas une membrane perméable qui permet des échanges entre d'un côté et de l'autre, en pensant que je dois gagner Christ et accomplir la loi. Tu as besoin de l'Esprit. Il est l'Esprit qui donne la vie. Il n'est pas la lettre. La lettre et l'Esprit n'ont rien de commun. L'Esprit ne nous a pas été donné pour accomplir la loi. L'Esprit nous a été donné pour vivre Christ. Ça, c'est l'Évangile. Écoutez-vous l'Évangile? C'est pour nous, chrétiens. Nous devons le voir. C'est incroyable comme si souvent nous sommes aussi... combien il y a aussi de passages qui parlent de cet aspect de la loi. La loi a cette caractéristique de traiter et d'interagir avec notre chair. Et la chair, c'est la mort, et la chair pécheresse. Et l'esprit interagit avec notre esprit. Et avec notre esprit, il y a la vie, il y a la grâce. C'est totalement différent. Donc, à gauche, vous avez la chair, le péché, la mort, et à droite, vous avez notre esprit, la vie et la grâce. Et tu peux dire, ouais, je le connais, mais est-ce que vous le voyez? Et en étant du côté de la loi, produisons tous les problèmes. Et dans Philippiens 3, il commençait en disant, nous ne sommes pas de ceux qui servent selon la chair. Nous sommes du côté de l'esprit. Il n'y a pas d'harmonie entre les deux. Lisons encore quelques versets. Dans Romains 5, verset 20. Afin que cela puisse pénétrer en nous. Romains 5, verset 20. Or la loi est intervenue. En fait, il est dit que la loi est intervenue à côté.
Donc ça veut dire que la loi joue un rôle secondaire, non pour nous, mais pour les Juifs, mais pas pour nous. J'espère que vous allez accepter ce que je partage. Si vous aimez la loi, ok, aimez la loi, mais vous allez subir les conséquences. La loi est à côté, rentrée, pour un temps limité. Mais dans Galates 3, verset 19, ouais, c'est très proche Galates et Romains. Galates 3, verset 19, il nous est dit, Galates 3, 19, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite ou ajoutée en allemand à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance, jusqu'à ce que Christ vienne? La loi a été ajoutée jusqu'à ce que Christ est venu, et Christ est venu, non? Alors, nous pouvons oublier cette partie de la loi. Nous devons plus nous occuper de Christ. Ou dans Luc 16, verset 16. Ouais, il y a plein de beaux versets. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Donc la loi a été donnée pour un temps limité. Jusqu'à cet âge où Jésus était venu. Et nous n'allons pas lire tous les versets. Que la loi a à voir avec les transgressions, les péchés, pour mettre en lumière les péchés. Mais la loi n'est pas une aide. Elle ne nous libère pas du péché. Elle ne peut rien œuvrer de positif. Ce n'est pas si facile d'accepter cela. Il y a quelques années, j'ai entendu. J'ai entendu qu'il y a des parties de la loi qui sont toujours valables. C'était quelqu'un qui était un peu mûr. Et alors, quand j'ai insisté sur Christ, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut mentir? Mais tu crois que la loi va te délivrer du mensonge? Elle va te montrer que tu es menteur, mais elle ne te délivre pas. Tu peux savoir et continuer à mentir et donner un mauvais témoignage. Quand la loi est là, la chair est toujours là. Et le fruit de la chair aussi. Tout le résultat, c'est une malédiction. Il y a une malédiction là. C'est le point qu'il ajoute. Tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui sont en Christ sont dans sa bénédiction. C'est l'évangile pour la vie de l'Église. Ne vous laissez pas tromper, conduire dans l'erreur. Et quand il y a des chrétiens qui viennent et qui veulent vous rendre, décrire d'une belle manière la loi, la rendre appétissante, dit le frère. Je ne veux... En tout cas, si vous voulez encore plus de versets à ce sujet, je peux vous en donner plus. Et ne pensez surtout pas que je parle mal de la loi. Non, la loi est bonne. Mais le problème, c'est que la loi interagit avec la chair et correspond au vieil homme. Interpelle le vieil homme. Le problème, c'est pas la loi, c'est notre vieil homme. La loi n'a rien à voir avec le domaine de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de la lettre. Mais avec l'esprit, nous avons affaire avec le Seigneur Jésus qui est vivant. C'est pourquoi nous l'invoquons. non parce que c'est une méthode, mais parce que nous avons besoin de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être un avec toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. C'est pourquoi nous l'invoquons. Pourquoi tu l'invoques? Excuse-moi, t'as pas besoin de répondre. Seigneur Jésus, Seigneur, je crois vraiment que tu es tout et en tous. Et alors la vie vient, et la vie de Dieu, l'œuvre de Dieu repose sur cet évangile, et elle révèle la vie de Dieu, la justice de Dieu. Et nous vivons dans cette justice de Dieu, l'Église révèle cela. Christ est notre vie, nous témoignons de cela, c'est notre point focal, nous n'avons pas de place pour d'autres choses, il est si riche, pourquoi devrions-nous nous occuper d'autres choses? As-tu du temps pour d'autres choses? Il n'y a pas là de critique, de contrôle, le Seigneur doit réchauffer notre cœur, que nous apprécions. Amen. Je voudrais être en Christ. Le témoignage, le baptême de ce matin a montré que tu as été transféré en lui. Mais comment nous venons d'un domaine à l'autre? Eh bien, il y a la mort de Christ. Et de l'autre côté, il parle de la puissance de la résurrection. Je vais juste évoquer ces points sans m'attarder. La mort de Christ nous a affranchis. Je trouve que le chemin de Dieu est génial. Comment il agit par notre foi et le baptême, nous avons été baptisés dans sa mort. Ça veut pas dire que je suis dans sa mort et je ressors comme le vieil Olaf. Mais qu'est-ce que nous dit Romains 6? Romains 6, verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort. Et verset 5, Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante avec lui. Mais tu ne vas pas revenir de la même manière. Tu restes dans sa mort. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Et c'est la base de notre vie chrétienne. Je suis mort. Le problème est résolu. Seigneur Jésus, et c'est le fait. C'est un fait en Christ. Je suis crucifié. Je suis mort. Lis Romains 6 et ainsi de suite. La loi est là, mais ne peut plus te toucher. Est-ce que tu as déjà vu un policier distribuer des PV dans un cimetière? Mais non, ils savent que la loi n'est plus valable au cimetière. Pour les morts, la loi n'est plus valable. Est-ce que tu es mort? Êtes-vous mort? Mais qu'est-ce que prêche Olaf? Nous sommes tous morts. Je suis donc pour la vie. Nous sommes dans la mort de Christ. Demeure dans sa mort. Alors la loi n'a rien à annoncer. Tu es libre de la loi. C'est ce que nous dit Romains 7. Parce que je suis mort à la loi, je suis libre. Parce que je suis mort, je suis libre de la loi. Lisez Romains 7. J'ai été affranchi de la loi, libéré de la loi. Il y a tant de descriptions pour nous montrer cela. Nous ne sommes pas dans la sphère de la loi. La vie de l'Église est dans ce domaine. L'Évangile est dans ce domaine. Et pas que nous exigions des hommes, nous demandions aux hommes d'être sauvés pour respecter la loi. D'autres peuvent le prêcher, mais ce n'est pas l'Évangile. Nous sommes devenus croyants pour vivre en Christ, et c'est la liberté. C'est la liberté des formes de notre moi. C'est la meilleure des choses. Olaf demeure en Christ, et c'est valable pour tous. Seigneur Jésus, c'est merveilleux. Et alors, nous expérimentons la résurrection par la mort et la résurrection à voir avec la puissance. Et c'est aussi une caractéristique de la résurrection, alors que la loi montre que les faiblesses, alors que la résurrection montre la puissance de Dieu. C'est pas que nous sommes peut-être faits misérables, mais cette puissance agit en nous. C'est pas que nous allons sauter au plafond. Tu es peut-être en bas, mais il y a cette puissance qui est là, disponible. Tu dois toucher ce Christ. C'est pourquoi il est si important que nous connaissions Christ. Et si nous ne connaissons pas l'Esprit, nous glissons du côté de la loi. Mais nous avons toujours encore le choix. Mais s'il te plaît, ne demande pas des autres qu'ils soient avec toi de l'autre côté. Que nous fassions un détour dans la loi. Reste dans la sphère de l'Esprit. Pour être libre dans cette liberté de Christ. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur.